Bienvenue dans Destination CRFPA, un podcast réalisé par trois étudiants ayant obtenu leur examen en 2019 qui décortique pour vous toutes les étapes obligatoires à passer avant et après ce fameux examen. Conseils et astuces en tout genre, nous parlons sans langue de bois et en toute simplicité de tous les aspects de l'examen pour vous aider à mieux l'appréhender et à le réussir. Avant de commencer cet épisode, prenez 2 minutes pour rejoindre le Discord de l'émission dont le lien est en description. Vous y retrouverez tous les documents que nous mettons à votre disposition et vous pourrez échanger avec nous et le reste de la communauté pour répondre à toutes vos interrogations et vous permettre d'appréhender sereinement ce marathon qu'est le CRFPA. Merci et bonne écoute.
Défendre, c'est cela. C'est se refuser à accepter ce que autrui veut vous imposer.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Destination CRFPA. Aujourd'hui, je suis avec Antoine pour parler de son passage au grand oral. Salut Antoine.
Salut Xavier.
Donc Anthony ne sera pas présent avec nous, mais la pensée y est. Je te propose de commencer tout de suite, Antoine, sur ce grand oral. Donc que tu peux nous rappeler où est-ce que tu avais passé ton CRFPA?
Alors du coup, moi, tout le CRFPA, je l'ai passé à la Sorbonne. Parce que je voulais pas le passer à Aix et je voulais pas faire de stratégie. Donc j'ai tout fait à la Sorbonne. C'est vrai qu'il y a souvent on dit l'oral, le grand O, il est plus facile dans tel IEJ, il est plus facile dans celui-là. Je sais qu'à Aix, on dit souvent que les écrits sont très durs, que l'oral est plus facile. Moi, je voulais pas me poser de questions, donc j'ai tout fait là-bas. Et le grand O, je l'ai pas trouvé particulièrement, enfin, je l'ai trouvé normal, pas particulièrement difficile.
Avant de commencer sur ton grand O à toi, en fonction des IEJ, on sait que les exercices pour le grand oral sont différents. À Paris 1, est-ce qu'il y a un exercice qui est imposé, un peu comme Aix avec le commentaire d'arrêt, ou c'est fluctuant?
Alors, si je me souviens bien... Alors, rappelle-moi les différents types d'exercices. On a la dissertation, le commentaire d'arrêt...
La plaidoirie.
Ouais.
Et je crois que c'est tout, c'est justement, il y a souvent cette distinction entre un peu ce qu'on appelle la dissertation, donc un sujet quelconque qui peut être, par exemple, je sais pas si c'est déjà tombé, par exemple, le sport et la liberté fondamentale.
Ouais.
Donc la dissertation, ça va être plus à toi de construire un plan en balance, alors que sur la plaidoirie, tu as une question qui est fermée. Et il faut prendre position, et parfois même la position t'est imposée.
Voilà, c'est ça. Alors, à Paris 1, la tradition voulait que ce soit une plaidoirie. Et l'année où je l'ai passé, en fait, ils ont... Donc, la plaidoirie, c'est ça. Il y a un sujet, une problématique, et on choisit le pour ou le contre. Tête, à Paris 1, le pour ou le contre n'est pas imposé. Choisit librement. Et cette année, du coup, pour le passage 2019, et je pense que 2020, ils vont maintenir ça... Il y avait un petit changement, mais on reste en fait sur un format plaidoirie. C'était que la problématique, ou du moins l'énoncé, n'était pas posé clairement, mais on devait nous-mêmes le dégager à partir d'un texte de loi, et ensuite, prendre le pour ou le contre. Donc moi, c'est ce qui s'était passé. Il y avait les deux en fait. Il y avait soit la plaidoirie où l'énoncé est donné, on choisit le pour ou le contre, soit la plaidoirie où d'abord on déduit l'énoncé d'un article de loi, et ensuite on choisit le pour ou le contre.
D'accord, mais du coup, tu parles d'une possibilité, soit l'un, soit l'autre, mais on est bien d'accord que toi, quand tu arrives le jour J, on te passe le sujet et t'as pas ton mot à dire sur le sujet.
C'est ça, et on te donne le sujet et on n'a pas le mot à dire. En revanche, on choisit toujours le pour ou le contre.
Oui, donc on reviendra un peu dessus par la suite sur le tirage du sujet, mais je te propose de commencer sur un peu l'atmosphère qu'il y a dans le centre d'examen, vu que Paris, c'est un peu... Je pense avec Assas, l'un des deux gros centres en France pour passer le CRFPA. Donc, est-ce qu'il y avait une atmosphère particulière quand tu es arrivé le jour J?
Alors déjà, moi j'ai trouvé que la Sorbonne organisait très bien le CRFPA. J'ai jamais eu aucun problème, tout a été bien fait. Et donc en fait, déjà de ne pas avoir de problème d'organisation, ça enlève vraiment du stress parce que c'est le dernier des soucis qu'on a envie d'avoir le jour J. Donc comme c'est un peu l'usine entre guillemets à la Sorbonne, mais l'usine de qualité du coup, ils louent l'espace Charenton qui est dans le... Alors je connais pas bien les arrondissements parisiens, mais on est au bord du périph' à l'entrée du parc de Vincennes, du bois de Vincennes. Donc moi j'avais dormi la veille, je crois, chez une copine. Ouais, j'avais dormi la veille chez une copine avant d'aller au Grand Oral. Donc, je prends le métro, j'arrive à Espace Charenton et donc je découvre, j'avais un peu d'avance. Donc, il y avait plein d'étudiants en fait, on était vraiment beaucoup. Il y en avait une dizaine qui attendaient devant et puis il y avait une nouvelle salle d'attente à l'intérieur. Et puis ensuite, on nous emmenait vers la salle de rédaction en fait, on va dire ça comme ça. Mais donc, beaucoup de gens, j'étais pas très stressé, j'étais plutôt détendu. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à Paris 1, on tire un nom de famille. En fait, on tire une lettre et on commence par cette lettre. Et ça, vous l'apprenez, je crois, très peu de temps après les rendus des écrits, l'admissibilité. Donc moi, j'étais un peu inquiet au moment de l'admissibilité qui tire le M ou une lettre juste avant et que je me retrouve en fait à passer dans la semaine qui suit. Ça n'a pas été le cas. Je crois qu'ils ont tiré exactement. Enfin, je suis passé. J'ai eu 2 semaines de rab. J'ai pas eu un mois. J'ai eu 2 semaines. Donc c'était. Ah oui. Donc c'était bien en fait. C'était normal. Je suis passé aux alentours du 15 novembre de tête, le 13 je crois.
Oui, parce que comme c'est un peu comme tu disais l'usine, les oraux à Paris 1 s'est étalé entre début novembre et quasiment
fin novembre. C'est ça. C'est presque sur un mois. Je connais pas les dates exactement, mais peu ou prou c'est ça.
D'accord.
Et donc j'avais eu le temps de bien me préparer. À nouveau, je vais insister dessus, je n'ai pas de conseils à donner, mais je sais que moi, ce qui m'avait le plus aidé dans la préparation, c'était... Alors déjà, je me souviens que je n'avais pas révisé avec toi et Anthony. Enfin, on l'avait un tout petit peu. Je crois qu'on avait fait 2-3 sessions ensemble. Mais j'avais surtout révisé avec donc le groupe de filles, Leïla, Oriane et tout, qui sont avec nous, Marie. Et en fait, elle, ce qu'elle faisait, c'est que tous les soirs, elle faisait un oral blanc. Où tout le monde est à la fois jury et tout le monde passe. Donc sur un groupe de 4, ça fait 3 jurys et une fois on passe. Et donc je l'avais fait, je pense qu'avant le grand oral, j'avais déjà fait peut-être une vingtaine d'oraux blancs avec des potes. Et en plus, j'en avais fait un avec, je crois que c'était pré-barreau, donc moi comme j'étais à Aix, je l'avais fait en visio. Mais donc j'avais essayé de pratiquer le plus possible cet exercice, en condition, toujours. Dès que j'avais pas, et dès le début, donc même quand j'avais pas les connaissances, en fait, je me mettais en condition, mais avec le fascicule de pré-barreau, pour avoir le fond, et ensuite j'attaquais. Et en fait, assez vite, le fascicule, je me suis rendu compte qu'il servait peu quand j'avais appris à gérer le fameux code constitutionnel et des libertés fondamentales.
Oui, mais vraiment, celui-là, on le recommande vivement.
À chaque fois, on le dit.
Et s'il y a bien un ouvrage à avoir le jour du grand oral, c'est bien celui-là.
Ah, moi, je le trouve incroyable, ce code. Je pense que c'est... Pour moi, c'est le meilleur code de chez Dalloz. Et le code général des impôts ne m'en voudra pas de dire ça.
Donc, du coup, ce qui fait que tu avais une préparation qui était quand même assez complète, le jour J, tu arrives pas trop stressé, tu nous dis. Et est-ce que tu as interagi un peu avec les autres candidats ou pas trop? Parce que les gens sont pas là pour venir discuter, quoi.
Bon, on discute un peu dans la salle, mais tu sais, c'est ces discussions d'avant-examen où on est un peu stressé, on connaît personne, on est tous assis en rond, on attend qu'on nous appelle. Donc on discute, en fait tu discutes de tout et de rien. Ça va, stressé, non, ça va. Mais tout le monde était très gentil. Il y en a qui veulent pas discuter, qui ont les écouteurs, mais c'est pas des... Enfin voilà, c'est pas une discussion de comptoir, c'est de la courtoisie et au final on est tous un peu déjà dans l'examen.
Ok, donc après on... Le moment où on appelle ton nom, donc Antoine, t'es prié de rejoindre la personne pour aller à la salle pour préparer. Donc tu donnes un numéro pour tirer le sujet ou on te présente un sujet directement?
Je sais plus. Je crois de tête, il y avait 10 feuilles sur une table et j'en choisis une avec le sujet écrit dessus.
Ok, d'accord.
Il me semble. Et je dis 10, c'était peut-être plus, c'était peut-être moins. Mais il y avait un certain nombre de feuilles. Donc je tire donc la feuille et je tombe donc sur ce nouveau format, cette plaidoirie pour laquelle il faut, avant de choisir le pour ou le contre, déterminer le sujet en fait, à partir d'un texte de loi. Et donc moi, le texte de loi, c'était la charte, l'article 1er de la charte de l'environnement. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
D'accord.
Donc je tombe sur une phrase, en fait, mais qui est un article. Donc moi, j'en déduis le sujet suivant, enfin la problématique suivante a-t-on le droit à un environnement sain? Et je crois que je réponds par la positive. Oui.
Mais ça devient assez rapidement ou c'est plutôt en travaillant
Non, en fait, si tu veux, comme j'avais fait 20 sujets avant,
okay.
Et qu'en fait, j'avais repris... Alors, j'essaierai de vous retrouver cette donnée. Si vous voulez, j'avais un document qui listait tous les sujets qui peuvent tomber au grand oral. Et en fait, moi, j'étais passé 20 fois, mais comme on était 4 au total, donc les autres étaient passés chacun 20 fois, donc au total, il y avait eu 80 passages, donc tous les sujets étaient tombés. On avait fait tomber à peu près tous les sujets, sujets sur l'environnement, sujets sur le droit des enfants, sujets sur tout. Et en fait, dans tous les sujets, je savais déjà à peu près comment le droit fondamental en question devait être mis en balance. Si tu veux, j'avais à peu près tous les schémas. Sur des problématiques plus procédurales, j'aurais été un peu plus embêté, je pense, j'étais moins calé. Mais sur des droits de fond, ça allait bien.
Ok, d'accord.
Du coup, le droit de l'environnement, est-ce qu'on a le droit, oui ou non, au droit de l'environnement? Et là, vous le savez, c'est toujours cette question, c'est mettre en balance, en fait. Donc,
est-ce que t'as le plan dans ta... Est-ce que peut-être... En fait... J'ai complètement oublié le plan que j'avais fait le jour J, mais est-ce que tu as un peu les grandes lignes que t'avais?
Ouais, enfin, je sais que c'était une mise en balance. Donc en fait, je suis incapable de donner l'intitulé des titres, mais que par principe on y avait droit, que par principe le droit à l'environnement existe, et qu'en fait, et là je montrais qu'il existe parce qu'il porte atteinte à d'autres droits, puisque souvent en fait, je trouve que c'est les conflits de normes qui démontrent bien l'existence et la force d'un droit fondamental. Et donc dans cette première partie, c'était beaucoup. Par exemple, la cartographie des risques environnementaux qui pèsent sur les sociétés mères, tout ce genre de choses. Et j'étais vraiment parti très large, la responsabilité environnementale, la responsabilité pénale environnementale. J'étais beaucoup parti sur ça, donc le fait que ça existe. Et je crois que j'avais... Non, je crois... J'avais peut-être même fait les deux, en fait. Je me souviens plus exactement, Xavier.
Non, mais t'inquiète pas, mais...
Mais puisque...
Et sur ta préparation, enfin, même si tu ne te souviens plus de ton plan, est-ce sur ta préparation, quand tu rédiges, je sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, est-ce que toi tu rédiges tout, plutôt à tirer, plan détaillé?
Alors moi je fais.
Trop rédigé,
plan détaillé. Moi je suis très fan du plan détaillé. Okay. Toujours une partie par page que sur le recto, pas recto verso.
Ok.
L'intro en général me prend. L'intro, quand je te dis je la rédige, elle est très détaillée l'intro. Je rédige pas forcément toutes les phrases parce que je trouve que ce qui est intéressant c'est de se laisser parler en fait. Okay. Et comme ça on peut regarder les gens dans les yeux.
Mais oui, moi j'ai, pour le coup, j'écris même les phrases, mais oui, c'est une façon de faire aussi de pas tout,
ouais.
Pas tout rédiger non plus.
Je sais que quand on est stressé, alors en général, moi je rédige en fait les deux premières phrases de l'intro. Okay. Comme ça je sais que j'ai mon démarrage. Et en fait, ces deux premières phrases, elles me permettaient de me mettre sur le rail. Et ensuite, j'avais des idées très détaillées dans l'intro. Par exemple, moi, je me souviens que c'était juste après l'explosion de l'usine Lubrizol dans le nord de la France. Okay. Et donc, ça avait été mon accroche. Donc, j'avais accroché avec Lubrizol et avec la réglementation Seveso européenne. Ça avait été l'actu. Donc, j'avais vraiment commencé là-dessus. Et ensuite, justement, ça m'avait permis d'amener à toutes ces problématiques que sont en fait les problématiques environnementales récentes, qui avait eu la COP21 à Paris, c'était en 2015, je crois, et d'enchaîner un peu sur toutes ces problématiques. Ensuite, annonce de plan. Alors, je sais pas, ça on l'a peut-être pas dit, mais moi je sais que j'avais une montre. D'ailleurs, merci Marie, puisque c'est toi qui m'avais prêté la montre de ta grand-mère, que j'avais. Posé en fait, moi la première chose que j'avais fait, j'avais posé la montre devant moi, je l'avais réglée à minuit 0 minute, et au moment où je commençais à parler, j'ai appuyé sur le poussoir pour qu'elle se remette en marche. Et donc en fait, je l'avais posé devant ma feuille, j'avais juste ma bouteille à droite, et donc je savais tout le temps où j'en étais sur le timing. Et je m'étais dit que je voulais faire une intro de entre 5 et 7 minutes. Parce que j'aime bien les intros assez détaillées, assez fournies. Je crois que j'avais fait que 5 au final. Et en fait, assez facilement, en fait, un tiers. Un tiers l'intro, un tiers la première partie, un tiers la deuxième partie.
D'accord.
Et donc en fait, voilà, c'est ce que j'ai fait.
Ouais, sur la gestion du temps, ça oui, c'est vrai que tu le rappelles, on l'a peut-être pas appuyé dessus sur les épisodes précédents, mais c'est important de vraiment être le jour J, il faut que ce soit réglé pour que quand vous avez terminé de parler, ce soit on se rapproche vraiment le plus possible de 15 minutes sans le dépasser, mais il faut, faut vraiment être pile poil quoi.
Ouais, il faut très souvent il faut gérer son flow. Je sais pas si on parle de flow, mais parce qu'on a tendance à vouloir parler trop vite et en fait c'est dommage parce qu'il y a quelqu'un un mec qui maîtrise parfaitement le sujet mais qui va parler trop vite et moi je sais que j'ai tendance à parler vite donc j'ai ralentissé volontairement. En fait, il va tout dire en 11 minutes. Il aurait pu le dire en 13:50, en 14.
Ouais.
Et en fait, c'est dommage parce que le sujet est traité, mais il a parlé trop vite et il va perdre 2-3 points parce que il manque du temps. Peut-être plus d'ailleurs, je ne sais pas comment est le barème sur le temps. Donc vraiment, la montre.
Ouais. Donc une fois la préparation faite, au bout d'une heure, tu sors et tu es invité à gagner la salle d'examen.
Voilà, c'est ça. Moi, il y avait du retard. Donc en fait, au bout d'une heure de préparation, le personnel chargé de surveiller la salle de préparation m'arrête. Donc je range mes codes. D'ailleurs, j'avais pris tous les codes. J'avais tout emmené avec moi comme code. Je crois que je m'en suis servi que de 2 ou 3. Et ça a été très utile. J'ai trouvé des petites anecdotes, si vous voulez, qui justement servent à meubler aussi le temps. Ça sert à faire une conclusion. Par exemple, je me souviens que la conclusion que j'avais trouvée, c'était un décret de 1890 qui interdisait la pêche à la grenade. Et que, en fait, pour dire que c'était pas récent la protection de l'environnement, puisqu'on interdisait déjà la pêche à la grenade. Enfin, vraiment, vous pouvez trouver plein de trucs dans les codes.
Ouais.
Si vous avez un peu de temps, vous creusez. Donc, elle m'arrête, récupère mon stylo, pose mes affaires. Et puis là, j'avais 10 minutes de battement, je crois, avant. En fait, il y avait 10 minutes de retard. Et donc, j'ai encore mes feuilles devant moi. J'ai ma montre puisqu'elle est à mon poignet, donc je vais pisser un coup et ensuite je me remets à table et là en fait je commence à, si vous voulez, je me pré-récite. J'ai profité, et si vous l'avez ce temps, profitez-en, je pré-récite mon intro. Je commence à me la mettre dans la tête, mon annonce de plan en 5 minutes et plusieurs fois, le déroulement des idées. Et donc moi je sais que ces minutes-là, elles ont été précieuses parce qu'elles m'ont vraiment bien servi pour revoir un peu ce que j'avais fait, pour relire ce que j'avais préparé, si j'étais d'accord, si j'étais pas d'accord. J'avais plus le stylo pour corriger ce dont j'étais pas d'accord, donc j'ai essayé de m'en souvenir. Mais voilà.
Ok.
Ensuite, l'étudiant qui était dedans sort. Je suis dans le couloir à ce moment-là, donc je suis sorti de la salle de préparation. Et puis là, je vois donc les trois examinateurs sortir, me dire « Monsieur, on va prendre un café, attendez. » Donc, ils vont prendre un café, ils fument une clope et ils ont mis super longtemps. Donc, je continuais de réciter dans ma tête. Je pense qu'ils ont mis peut-être 10-15 minutes.
Ah oui.
je crois qu'ils en avaient besoin. Mais ils étaient tout sourire. Vraiment très sympa. Et donc
ça va, premier contact plutôt agréable, quoi.
Ouais, je crois qu'ils étaient contents d'être là, qu'ils étaient détendus. Je pense pas qu'il y ait eu d'avocat associé dans le lot pour qui son temps de travail valait 1000 euros de l'heure et qui se disait qu'il était en train de les perdre.
Okay.
Donc, ils étaient détendus, en fait. Et je crois qu'ils étaient contents. Donc ça a été très bon, j'étais très content de les voir. En fait, juste sourire. Ils reviennent, ils s'installent, ils m'invitent à rentrer.
Il y avait du public ou pas ?
Non, en fait, alors si vous voulez, en fait, ça ressemble un peu à un pôle emploi ou à une banque, ce bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a plein de, vous savez, ces espèces de petites salles dans lesquelles le banquier, il nous reçoit. C'est pas le gros banquier d'affaires, c'est le banquier du coin, de l'agence locale. La pièce fait 8 mètres carrés. Il y a un bureau, une armoire, 4 chaises, un ordinateur et c'est tout. Et une fenêtre, vous savez, en verre non transparent là. Donc enfin, vraiment, c'était minimaliste. Pas de public. Donc il nous appelle, il nous invite à rentrer, on rentre. Là, toujours, vous connaissez, vous savez, on ne s'assoit pas. On salue, bonjour monsieur le président. Ou madame. Alors sur madame le président, madame la présidente, je vous laisse mettre. Moi, je ne sais jamais. Le président est toujours au milieu et en général c'est l'universitaire.
Ouais, je pense que ça, ça bouge pas d'un IEG à l'autre pour le coup.
Ouais, normalement c'est l'universitaire et il est au milieu, donc ça vous le savez déjà. Et puis moi, j'avais quelqu'un d'un certain âge qui faisait très propre sur un monsieur à la gauche de l'universitaire. Et en fait, c'est assez vite, ça a été flagrant que c'était lui le magistrat. Et puis du coup, à la droite de l'universitaire, une avocate plus jeune qui souriait moins, je pense qu'il devait faire le bad cops. Donc voilà. Donc les trois, bonjour. Il m'invite à m'asseoir, je m'assois, je pose la montre. Il vérifie mon identité. Il me donne le go, j'appuie sur le bouton de la montre et c'est parti.
Donc tu fais l'exposé, etc. Tout au ouais. niveau du temps, je pense que... Il devait pas avoir de problème, mais tu finis bien.
Je finis à 14 à peu près.
14.
À peu près à 14, donc ça se passe bien. Parce que je temporise en fait, et parce que justement je m'étais mis. En fait, la conclusion n'est jamais obligatoire en plaidoirie. La conclusion n'est pas obligatoire, mais j'avais eu des. En fait, je m'étais marqué des petits éléments de fin à rajouter en plus, comme ce truc sur l'interdiction de la pêche à la grenade, qui okay. me permettait en fait de gagner, allez, entre 20 et 40 secondes. C'est pas vraiment une conclusion, mais c'était quelques éléments en plus. Donc je me souviens que je les utilise et que j'arrive à peu près à 14 minutes.
Ok, et une fois que tu termines, je suppose que c'est le président qui prend la main pour. Qui reprend la main, c'est ça ?
C'est ça. Le président reprend la main, qui remercie, très courtoise, et puis c'est parti. Question. Question sur le sujet.
Donc, les premières questions portent sur le sujet.
Ouais, alors moi, ça a été, je pense que sur la demi-heure de questions totale, je pense que j'ai eu plutôt 10 minutes sur le sujet et 15 ou 20 minutes sur le reste. Et je suis pas sûr d'avoir eu 30 minutes exactes. Je pense que j'ai eu un peu moins et encore, je suis pas sûr. Mais le sujet, on est passé relativement vite dessus. Je pense que personne n'était expert en droit de l'environnement.
Et c'était quoi, par exemple, les questions qui pouvaient revenir sur...
Alors, on a un peu parlé de l'historique de la norme Seveso. Mais du coup, en fait, moi, de nouveau, j'avais la norme Seveso, j'avais lu Wikipédia, donc je savais un peu que ça s'était bien passé.
Oui, parce que la norme Seveso, ça, ils en parlent peut-être parce que toi, tu l'as évoqué dans ton intro, tu disais tout à l'heure.
Ouais. Alors, moi, je l'avais évoqué dans mon intro parce qu'en fait, vous savez, Seveso, c'est une petite ville en Italie où il y a une usine... chimique explose et en fait je connais pas du tout le nombre de morts, mais je sais que ça a été terrible sur les gamins. Et à la suite de cet accident, l'Union européenne, je crois que c'est la directive Seveso, a obligé les États membres à prendre des mesures protectrices autour des usines chimiques, d'où la norme Seveso, les normes Seveso, et qui était à Lubrizol, il y avait la norme Seveso, du moins elle était censée être respectée, je crois qu'elle n'était pas complètement.
D'accord, donc vous passez sur la norme Seveso, puis après des questions un peu...
Oui, ensuite, par exemple, ils m'ont piégé sur... ils m'emmènent donc sur les animaux, donc personnalité juridique non, mais douée de sensibilité. Et ensuite, alors très marrante, j'ai pas su répondre, mais belle question, j'ai trouvé. Est-ce qu'on peut reconnaître la personnalité juridique à la nature ? Donc j'ai fait un syllogisme en fait à l'oral pour arriver à non. Au principe que non. En droit français, ça se tenait, mais ils attendaient pas du droit français. Ils voulaient, en fait, et je le savais pas, la rivière, l'Amazone, a la personnalité juridique.
Ah oui.
Voilà. Okay. Donc, mais bon.
Ça dépend. Ok. Mais vu que tu avais raisonné à l'oral, c'était une petite erreur, mais je veux dire, en soi.
Oui, mais moi, je crois pas que les erreurs, ce soit grave. Parce qu'en vrai, alors, dans le climat qui a été installé, ça a très vite été un débat, plus qu'un question-réponse.
D'accord, oui, je vois.
J'ai très vite essayé, en fait, de... Alors, je leur demandais pas « qu'est-ce que vous en pensez ?» parce oui. que je leur retournais pas la question. Mais de un peu du tac au tac et de plus détendre qu'un question-réponse.
D'accord. Donc, et après, une fois les questions, la première partie sur les questions sur ton sujet,
oui.
tu faisais des questions un peu plus larges, mais sur quoi ça portait ? Est-ce que c'était plutôt des libertés fondamentales ou plutôt de la culture juridique ?
Ça a été... Culture juridique, liberté fondamentale en général et déonto. Ça a été un peu ces trois sujets-là.
Ok, dans l'ordre, pêle-mêle, peut-être quelques questions qui
dans l'ordre. Alors, ça a commencé avec la... Plutôt DLF. Et donc, ils me posent la question si on avait le droit de faire une loi qui incrimine la consultation de sites à caractère djihadiste. Enfin, qui... Donc vous savez, ça a été fait. C'est une loi qui a été votée par le Parlement, mais qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il y a la plaidoirie de François Sureau, qui est en ligne. Elle a été publiée aussi. Je ne me souviens plus le titre du bouquin, Xavier, tu t'en souviens ?
Non, je ne m'en souviens pas, mais c'est un tout petit livret qui a été écrit. Du coup, ça reprend Il y a trois plaidoiries de François Sureau dans ses dossiers sur les consultations de sites à caractère terroriste. Parce que juste pour reprendre ce que tu disais, la loi a été censurée une première fois. Et si je me trompe pas, le gouvernement a purgé la loi de ses
vices.
Mais quelques années après, un contentieux né sur la base de cette loi. Et ça remonte devant le Conseil constitutionnel. Et cette fois-ci, une fois encore, même la loi purgée de ses vices est censurée. Mmh. Et il y a la suite, du coup, où il y a les nouvelles plaidoiries de François Sureau qui intervient. Donc oui, c'est une question qui amène une réponse précise, puisque ça a porté sur des frais précis. Je te laisse continuer.
Ouais, voilà, non, mais merci, parce que c'était exactement ça. Alors moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas mal lu la plaidoirie et le truc, mais je savais pas que la loi avait été une première fois censurée.
Si je comme ça, ouais.
Mais voilà, donc ça, tu vois, j'aurais dû le dire, je le savais pas. Mais d'où en fait l'intérêt, moi, je pense. Et c'est pour ça, sur le Discord, moi, j'aime bien mettre des podcasts, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, la culture, l'avocature, c'est un vrai milieu entre eux où je pense qu'ils savent un peu tous et ils s'intéressent. Et donc, de rebondir, je crois qu'ils ont bien aimé le fait de basculer sur François Sureau, qui, pour moi, ça doit être votre lecture de chevet pour le grand oral, François Sureau, vraiment.
Il a été élu à l'Académie française, si je ne me trompe pas, là.
Ouais, hier, je crois.
Ouais.
À la place, fauteuil 24, à la place de Max Gallo.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est encore plus dans la... Il est dans l'actualité en ce moment.
Donc, François Sureau, la lecture, moi, je pense qu'elle est toujours agréable. C'était aussi... Je crois qu'il me pose quelques questions gilets jaunes, parce que c'était la mode à l'époque. Mais une ou deux... Je suis pas excellent, moi, sur le sujet gilet jaune.
Mais du coup, c'est côté gilet jaune plutôt sur liberté de manifestation ou plutôt répréhension?
Ouais, c'était ça. C'était sur l'interdiction de manifester. Est-ce que c'est possible d'interdire à quelqu'un de manifester?
D'accord.
Et comment, de façon globale, expliquez-nous un peu comment est encadrée la liberté de manifestation. Donc, il faut une déclaration préalable, que ça s'annonce en préfecture et tous ces trucs-là.
Oui, bien sûr.
Donc ça, c'était... On passe assez vite dessus, je suis pas... Je pense que je réponds en faisant le minimum syndical. Sur ça, c'est moins bien que sur celle d'avant avec François Sureau.
Ok.
Et puis...
Sur la déontologie, du coup
Ouais, en fait, je vais dire déontologie. Donc c'était sur secret professionnel. Okay. Il cherche à savoir un peu. Parce que la déonto, c'est pas vraiment au programme, mais en fait, c'est beaucoup dans leur tête. Donc, ils y sont un peu tout le temps. Et les avocats aiment bien ces questions-là. Donc, question déonto, un peu. Tout simple. Qu'est-ce qu'ils me demandent? Je crois qu'ils me demandent les cinq éléments de la prestation de serment.
Ah oui, d'accord, les cinq, carrément. Ok.
Ouais, je crois. Ensuite, c'est intéressant, puisqu'elle me demande, vous savez que votre client est coupable. Est-ce que vous le défendez quand même? Donc, en fait, c'était la question. Enfin, à chaque fois, moi, j'essayais de faire des ouvertures parce qu'en fait, ça pose la question de la vérité, de la vérité judiciaire vis-à-vis de l'avocat. Donc, c'est intéressant, je trouve, d'aller sur ces sujets-là. Donc, on le défend quand même puisque la vérité, seule la vérité judiciaire, finalement, compte. Donc, encore faut-il qu'il y ait les éléments. Ensuite, il y a un problème de conscience qui se pose. L'avocat, il a le droit de refuser un dossier. Donc, si ça me pose un problème de conscience, je refuse de le faire. En revanche, quand on est commis d'office, on n'a droit que de refuser trois fois les dossiers, puisque c'est le principe de la commission d'office. Et en fait, on élargit un peu comme ça, finalement. Alors ça, il faut le faire si on est à l'aise un peu dans le sujet. Si on n'est pas à l'aise, c'est pas une bonne idée.
Mais je me rappelle, tu l'as posé, cette question, pendant les simulations Twitch, non ?
Oui, je l'ai posé à Camille.
Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas de quoi on parle, on a lancé des petites simulations au Grand Oral sur Twitch, où ceux qui sont candidats au CRFPA cette année... s'entraîne un peu sur des sujets, on leur pose quelques questions et le chat aussi pose quelques questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour savoir toutes les infos sur ça, sur Facebook et sur le Discord. Vous avez absolument le calendrier et comment on s'inscrit. Mais ouais, je me rappelle de cette question.
Et n'hésitez pas, si moi je vous disais que je m'étais beaucoup entraîné à faire des oraux avant, si vous avez personne dans votre entourage qui passe le CRFPA, le Discord sert à ça. Et nous, on essaie d'en organiser de temps en temps, mais vous pouvez vous en organiser aussi par deux, dans des salons. Il y a les bureaux là où vous pouvez discuter. Ça
Bien
sert à ça.
sûr, bien
Donc.
sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous, on le fait une fois, peut-être un peu plus quand ça va se rapprocher, mais je veux dire, si vous voulez toujours plus, c'est ce qui est tout à votre honneur. Vous avez les bureaux. Je pense que si vous mettez un message dans le salon Droits et libertés fondamentaux, il y a bien une personne qui sera aussi motivée que vous pour pouvoir le faire. Donc, ça peut être cool aussi si vous vous lancez là-dedans.
Ouais.
Donc, question sur le secret professionnel, sur la vérité judiciaire.
Ouais.
Il y a d'autres questions qui te viennent ou de toute manière ça s'enchaîne donc il n'y a pas forcément que ces sujets-là qui tombent mais
Ouais, l'universitaire qui me demande, c'était marrant. Donc vous savez, d'ailleurs c'est un sujet qui pourrait tomber avec, on a vu là les incidences à la Sorbonne avec un professeur qui a été mis au banc pour avoir comparé l'homosexualité, le... Et mince, comment ça s'appelle avec les animaux? Et la zoophilie. Et donc en fait, c'était sur la liberté des universitaires.
D'accord, ok.
Et donc en fait, donc elle me demande est-ce que ça existe? Est-ce que je peux dire plus ou moins ce que je veux quand je suis universitaire? Donc je lui dis que oui, la liberté universitaire c'est consacré. Il y a une décision au Conseil constitutionnel, je crois, de 1981.
Ouais, c'est une liberté d'expression assez renforcée, ouais.
Ouais, et qu'il y a quelques limites qui sont notamment. En fait, qui sont les limites légales, typiquement. Mince, j'ai oublié le nom exact quand on conteste le génocide.
Le
Quand on conteste
négationnisme.
le négationnisme, voilà, il y a des limites comme ça qui s'appliquent même aux enseignants. Et en fait, donc celle qui est en face de moi n'est pas professeure agrégée, elle est maître de conf. Et elle me pose une question qui est marrante. Elle me dit, est-ce que vous pensez que les maîtres de conf ont le même niveau de protection de leur liberté universitaire que les professeurs agrégés. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé qu'il y avait un piège dans
Ok.
cette question. Donc de nouveau, moi souvent, je répète la question. Je la reformule en fait,
Bien
quand
sûr,
c'est
bien
des
sûr.
questions sur lesquelles je ne sais pas, donc je reformule. Et puis je rentre dedans et en fait, je me dis que en fait, le maître de conférence est potentiellement peut-être habilité à diriger des recherches, que dans le cadre de l'habilitation à diriger des recherches, il y a des gros travaux écrits qui se font. Et que donc, c'est aussi une des façons principales d'exprimer son opinion en tant que, pour moi, chercheur, c'est à travers ses écrits, c'est pas qu'à travers un cours magistral dans un CM. Que le maître de conférence non habilité à diriger des recherches, finalement, lui, ne va pas vérifier les écrits des autres et que peut-être il a une protection qui était moindre. Enfin, je me suis pris le mur, mais j'ai hiérarchisé
D'accord, ok.
cette indépendance ou cette liberté. En fonction de si on est professeur, si on est habilité à diriger des recherches ou si on ne l'est pas. Ça a fait rire tout de suite le magistrat et l'avocat, donc j'ai su que je m'étais planté. Et la maître de conf, il disait, ah ben moi je ne suis que maître de conf, donc je n'ai pas de liberté. Mais vraiment il le disait sur le ton de l'humour, donc ils
Ouais,
étaient vraiment sympas.
c'était un peu en fin de grand taux. Petit piège,
Ouais.
tu tombes dedans, mais.
Ouais, voilà, c'était ça. Je pense
T'as
que
argumenté
c'était.
un peu, t'as tenté un truc et c'est pas passé, mais
Ouais, voilà, du coup,
pas. Ouais, ok.
je lui ai dit à main, je suis désolé, j'espère que vous me noterez pas trop mal. Et vraiment, c'était très détendu. Je pense que c'est important de détendre l'ambiance. De nouveau, ça dépend de qui est l'auditoire. Mais
Bien
si,
sûr, bien sûr, bien
s'ils
sûr.
sont bien, je pense qu'il faut détendre tout de suite. Parce que c'est plus agréable pour tout le monde.
Ok, donc après tu sors et tu sentais comment quand tu étais sorti? Ça allait, ça tu t'es dit bon, ça passe pas?
Ouais, alors, moi, je suis. Ça dépend des gens. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je suis toujours très confiant.
Ok.
Donc là, en fait, là, je savais que ça passait. Alors, il y en a qui disent ça porte l'œil de faire ça. Et moi, j'ai toujours peur de me faire.
Karma.
Ouais, le karma. Mais du coup, j'appelle ma mère, je lui dis que c'est bon. Et puis, je rentre à Marseille. Enfin, je vais voir un pote, je mange une pizza, je bois une bière, et puis je rentre dans le sud.
Ok, et au final, tu termines à
Bon,
combien?
alors je sais plus exactement combien je vais essayer. Je dois pouvoir retrouver ma note, mais ça s'est bien passé.
Ok, d'accord. Bah très
Enfin,
bien.
vraiment, ça a été.
Ouais, en tout cas, tu as eu une note qui fait qu'aujourd'hui, tu as eu le CRFPA, donc c'est l'essentiel, mais c'était pour avoir un ordinateur,
Oui,
du coup,
je
c'est
crois
cool,
pas que
quoi.
j'ai eu. Je crois pas que j'ai eu. J'ai pas eu 18.
Mais tu as eu une bonne note, ok.
Ouais, alors là, je les retrouve. Ouais, j'ai eu 14,5.
Oui, donc c'est une très
Donc,
bonne note, quoi.
c'était bien, ça me permettait de compenser. Là, j'ai mes notes parce qu'en fait, j'avais eu 10,5 à l'admissibilité.
D'accord.
Parce que j'avais pris 6,5 en note de synthèse. Et donc, en fait, ça m'a permis finalement, ça plus l'anglais, d'avoir 12 à l'admission.
Parfait.
Donc, sinon, voilà. Pour moi, vraiment, le grand O, c'est une question de pratique. C'est d'en faire le plus possible, avec le plus de gens possible, avant d'y aller.
Oui, c'est un peu aussi ce qu'on disait sur les lives Twitch. On nous posait la question de quelqu'un qui est un peu ric-rac là dans ses révisions. Et au final, même quand la préparation a commencé depuis longtemps, il faut, enfin, selon nous, la manière dont on a révisé, c'est que vraiment on a essayé d'avoir le plus, enfin, d'être le plus large possible pour avoir vu à peu près tous les sujets et au fur et à mesure de plus les révisions avancent, d'aller dans la précision, mais dans chaque sujet, et pas forcément de connaître très bien, d'être le spécialiste, par exemple, sur des questions de, je sais pas, moi, de liberté d'expression, mais de délaisser la bioéthique. Je pense que c'est un mauvais pari de se dire, il faut pas que ça, enfin, je mise tout sur quelques thèmes, etc. Il faut vraiment aller sur du très large et rentrer sur un entonnoir classique, mais voilà, de s'exercer pour emmagasiner au fur et à mesure des semaines le plus de connaissances possible.
Ouais, je pense que c'est vraiment ça le but. Hein. C'est ça a rien de connaître tous les micro-délais entre chaque étape de la procédure CEDH. Enfin, ça sert à rien. Si vous les connaissez, c'est tant mieux. Si vous tombez sur un internationaliste, vous ferez fureur. Mais il faut pas que ça soit au prix de
Au prix
d'impasse
du
sur d'autres
reste,
sujets. Ouais, voilà.
bien sûr, c'est sûr.
Donc voilà.
Ok, bah très bien, merci Antoine pour cette petite interview.
Merci Xavier.
Et pour ceux qui nous écoutent, merci encore de nous suivre. Courage, c'est presque la fin, le bout du tunnel est proche. Si vous nous écoutez avant les résultats, bah, courage, ça va le faire et vous avez travaillé pour ça, donc c'est naturel que vous ayez un peu de pression, mais on est de tout cœur avec vous. Donc, bonne semaine et bon courage pour vos révisions.
Au revoir.
Pour que l'entraide continue, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Destination CRFPA dont le lien est en description. Vous y trouverez non seulement tous les documents que nous mettons à votre disposition, mais vous pourrez également échanger avec nous et les autres membres de la communauté afin de se serrer les coudes et de mettre toutes les chances de votre côté. Pour ne louper aucun épisode du podcast, pensez à vous abonner au podcast sur votre application et à suivre notre page Facebook Destination CRFPA. Toute l'équipe vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée.